écoutez la Méridienne sur Radio Phoenix. Au programme aujourd'hui, nous recevons Monsieur Marco Daturi, professeur en chimie physique de l'Université de Caen. Cette interview s'inscrit dans le cadre d'une avancée scientifique sur la lutte contre la pollution de l'air intérieur menée par le laboratoire de catalyse et spectrochimie de l'Université de Caen. Bonjour Marco.
Bonjour.
Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous définir rapidement ce qu'est la chimie physique ? C'est différent du terme de physique-chimie, j'imagine, qu'on a l'habitude d'entendre, n'est-ce pas ?
Oui, non, c'est grosso modo la même chose, c'est-à-dire c'est une branche de la chimie dans laquelle on étudie certains domaines. Donc, traditionnellement, en France, on divise la chimie en chimie organique, minérale et chimie physique. Et donc, en chimie physique, on étudie la thermodynamique, la chimie théorique, la chimie analytique aussi, et en particulier la catalyse hétérogène et la spectroscopie, qui sont les spécialités de notre laboratoire.
Donc, on va se pencher un petit peu plus sur le sujet de cette émission, donc qui sont les polluants d'air intérieur. Donc, est-ce qu'on est exposé à beaucoup de polluants d'air intérieur dans notre vie quotidienne?
Oui, énormément. En fait, peu de monde le sait, mais l'air ambiant est beaucoup plus dangereux que l'air externe, même quand vous êtes à côté d'un axe routier très fréquenté, même quand il y a des usines à proximité. L'air intérieur, malheureusement, est très pollué. Et ce n'est pas uniquement dans l'habitat, hein, c'est l'air intérieur des véhicules, où vous suivez un véhicule qui est en face de vous, qui relargue des polluants, et vous n'avez pas l'effet bénéfique. Quand vous êtes sur le trottoir, il y a toujours un peu d'air, un peu de vent, rien que les mouvements d'air créés par les véhicules qui nettoient l'air, tandis qu'à l'intérieur, vous absorbez tout, et des fois, il y a des concentrations très élevées des différents polluants.
Et à l'intérieur, qu'est-ce que sont les principales raisons de la présence de ces polluants ?
Alors, il y a plusieurs raisons, mais en particulier si on fait référence au formaldéhyde, que plusieurs études ont indiqué en France, mais pas seulement, comme les polluants les plus concentrés. Cela est dû au fait qu'on les retrouve un peu partout. Il y en a dans certaines peintures, dans du papier peint, dans les colles, dans les sols, si vous avez des sols en linoléum ou disons des parquets collés, ce type de choses. On les retrouve dans les placos, surtout dans les mobiliers en bois de particules. La colle du mobilier en bois contient beaucoup de formaldéhyde. C'est quelque chose qu'on peut sentir nous-mêmes. Si vous achetez un mobilier neuf, que vous montez vous-même, pendant plusieurs jours, voire des semaines, et encore plus tard pendant des mois, et vous sentez une odeur très forte, piquante, qui des fois, dans certains cas, peut même brûler les voies respiratoires, les yeux. Ça, c'est le formaldéhyde qui est relargué au fur et à mesure par les objets.
Et donc, quelles formes peuvent prendre justement ces substances ?
C'est des gaz. Ce sont des gaz, c'est ce qu'on appelle des composés organiques volatiles, justement des substances qui ont une tension de vapeur très élevée, donc diffusent dans l'air spontanément. Et si on ne ventile pas constamment, ils restent à l'intérieur. Et donc, c'est le problème surtout l'hiver. Quand, pour garder la chaleur, on tient fermé. Et si on ne ventile pas, elle reste. Et notamment, les dangers, c'est la nuit. Quand on dort dans des locaux qui sont saturés de ces substances, et on ne dort pas, évidemment, à la fenêtre ouverte.
Donc, cette recherche qui a été menée a porté sur un polluant d'air intérieur appelé le formaldéhyde, ou autrement dit formol, plus communément connu sous ce nom-là. Est-ce que c'est une substance qui a toujours existé ?
On va dire qu'il y a plusieurs sources naturelles de formaldéhyde. Vous pouvez en avoir, par exemple, si vous brûlez du feuillage, des branches, du bois vert. Il peut y avoir des sources naturelles liées à d'autres types de combustion, d'autres activités humaines. Mais surtout, il y en a beaucoup depuis quelques années, depuis que notre modèle économique fait que nous importons énormément d'objets d'Asie du Sud-Est. Donc, en Chine, en Cambodge, en Vietnam, en Indonésie, dans les endroits où la main-d'œuvre coûte pas cher, il y a de la production industrielle. On fabrique des biens de consommation dont on a besoin. Et ils sont fabriqués dans des lieux chauds et humides. Ils sont entreposés dans ces types d'atmosphère. Et ils traversent les océans pour arriver jusqu'à nous. Donc, il faut quelque chose qui empêche la prolifération des moisissures, des champignons. Donc, c'est pour ça qu'ils sont immergés, aspergés des formaldéhydes. Et à un moment ou l'autre, ils vont les restituer.
Donc, quand est-ce qu'on s'est rendu compte, justement, de la présence de ces formaldéhydes dans les habitations ?
Disons, ça fait déjà plusieurs années, parce que, évidemment, depuis qu'on a ce type de problèmes, qui sont liés aussi au tissu, hein, si vous achetez des vêtements neufs qui viennent d'Asie, il y a du formaldéhyde dedans. Il ne faut jamais mettre un vêtement neuf sans l'avoir lavé au préalable. Et dans l'ameublement, et donc, tout le monde a senti cette odeur désagréable des produits chimiques. Et donc, et depuis, on va dire, une dizaine d'années, des mesures spécifiques ont été faites. D'ailleurs, l'ADEME a beaucoup fait dans ce sens-là pour la protection de l'habitat. Et il est apparu, par des études scientifiques, statistiques, que les formaldéhydes, c'est le principal polluant de l'air intérieur.
Alors, c'est quoi ces effets sur la santé de l'être humain ?
Alors, petite quantité.
Vous avez évoqué un petit peu tout à l'heure par.
Ouais, il est désagréable. Il peut provoquer des allergies, des asthmes, notamment chez les sujets les plus sensibles, les enfants, les personnes âgées, ceux qui ont des maladies respiratoires. Mais à des concentrations un peu plus grandes, il est cancérigène. Donc, c'est vraiment un produit chimique dangereux.
Donc, nous reviendrons sur les effets de ce polluant et de la manière dont il est étudié juste après une courte pause musicale. Vous allez écouter Wicked Game de The Last Diner Party en live à Seattle. C'était Wicked Game de The Last Diner Party en live à Seattle et vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Nous étions à l'instant avec Marco Daturi, professeur en chimie physique à l'Université de Caen pour traiter de la question des polluants intérieurs et en particulier du formaldéhyde dans le cadre d'une étude menée sur le traitement de cette substance. Donc la question de sa présence, c'est difficile à étudier ou pas ?
Non, il existe maintenant des capteurs qui sont capables de montrer la concentration dans l'air, qui ne coûtent pas cher. Hein. Bon, on va dire entre 150 et 400 euros, ça dépend un petit peu de la bonté technologique du capteur. On les trouve en commerce et ils montrent la présence de ces polluants et d'autres polluants qu'on peut avoir dans l'air intérieur, y compris des gaz qui ne sont pas polluants comme les CO2, mais qui quand même peuvent amener à des désagréments.
Donc, cette étude a mis en place la création de MOF, Metal Organic Framework, nouvelle génération. Qu'est-ce que c'est ?
Donc, ce sont des matériaux innovants qui ont été découverts assez récemment et qui sont développés en France, notamment par notre partenaire, le professeur Christian Serre de l'ENS et du CNRS, et qui est un leader mondial dans la synthèse de ces matériaux. Et ce sont des matériaux hybrides, organiques, inorganiques, où des petites entités inorganiques sont branchées les unes aux autres par des chaînes organiques, ce qui crée des très belles structures tridimensionnelles avec beaucoup de porosité, beaucoup de canaux. Et au sein de ces structures, on peut insérer ce que nous appelons des sites actifs, donc des petits objets nanométriques qui servent à piéger des molécules chimiques, à les faire réagir, à les agencer à l'intérieur. Donc voilà pourquoi on s'est tourné vers ces types de structures pour résoudre les problèmes du formaldéhyde.
Et donc ces MOF sont censés capturer les gaz de formaldéhyde. Comment ça procède ?
Alors, nous avons affronté les problèmes d'un point de vue très rationnel, c'est-à-dire les problèmes étaient de capter les MOF, d'utiliser les MOF pour capter les formaldéhydes, mais sans être dérangé, entre guillemets, par d'autres gaz, par d'autres espèces qui sont présentes dans l'air. En fait, quel est le problème ? Les filtres existent, les filtres sont utilisés dans les véhicules, dans l'habitat, sont essentiellement des filtres à charbon actif. Ils ne sont pas chers, ils ne sont pas du tout efficaces. Alors, le principal problème, c'est qu'ils ne sont pas sélectifs. Donc, l'espèce gazeuse qui est la plus abondante dans l'air, au-delà de l'oxygène et de l'azote, c'est la vapeur d'eau. Et donc, ces filtres industriels, commerciaux qu'on a, c'est gave d'eau. Et en très peu de temps, ils sont totalement saturés, ils sont incapables de récupérer d'autres polluants, et même quand ils sont saturés, dès que la température augmente légèrement, ils relarguent les polluants qu'ils avaient captés avant. Donc c'est même quelque chose de très dangereux à avoir. Et donc on voulait un matériau qui soit spécifique au formaldéhyde, qu'il capte efficacement les formaldéhydes et qu'il les garde à l'intérieur sans qu'ils repartent dans l'atmosphère, qu'ils rempoisonnent la pièce.
Alors donc comment justement on peut mettre ce genre de processus en pratique ? Il y a la mention de la création d'une start-up appelée SquareTech. Ce serait par le biais du coup d'un appareil de purificateur d'air, c'est ça ?
Oui. En fait, ça, c'est une belle histoire. Donc, notre université, quand on a découvert ces résultats, était intéressée à les breveter. Mais ils nous ont dit, on ne va pas faire comme d'habitude un brevet qui après va rester abandonné quelque part sans que personne ne l'utilise. Donc, si vous êtes intéressé, il faudrait quand même arriver à trouver un moyen de les produire et de les commercialiser. Monsieur Serre et moi-même, on ne se sentait pas trop l'âme des industriels. Mais notre thésard commun, Nicolas Sadovnik, qui si brillamment venait de terminer sa thèse, a relevé les défis. Donc, avec une ancienne étudiante de Christian Serre, donc Megan Musky, ils ont fondé cette start-up, SquareTech, et nous les avons aidés. Et la société Tekoya, qui avait cofinancé l'étude avec l'ADEME, a participé aussi. Et donc, on s'est dit, ben, vu que les industriels sont assez réticents à développer ces matériaux et à dépenser plus cher qu'un charbon antique qui ne sert à rien, on va essayer par nous-mêmes de produire ces matériaux, de faire de la pub, et peut-être qu'un jour, les gens seront intéressés à respirer un air plus propre.
Donc, dès qu'on a capturé ces gaz, où est-ce qu'ils vont après ?
Alors, déjà, c'est important, ils restent dans les filtres. Donc, ils ne reviennent pas dans l'air qu'on respire. Et ça faisait partie du cahier des charges. Hein. On a essayé un cahier des charges assez sévère. On s'est dit, bon, dans l'habitat, bon, c'est rare qu'on monte même à 40 degrés. Parce que, bon, après, ce n'est pas vivable. Mais si c'était un véhicule, ben, une voiture garée au soleil peut atteindre 50 degrés l'été. Donc, on a dit, ben, il nous faut quelque chose qui tient jusqu'au moins 50 degrés. Et c'était le cas. Donc, mon collègue a réussi à fabriquer ces matériaux qui est très efficace. Il filtre sélectivement les formaldéhydes de l'air et les garde. Et donc, il faut des températures entre 50 et 70 degrés pour les libérer. Donc, ce qui nous met à l'abri d'un relargage impromptu et dangereux. Et ensuite, on s'est dit qu'il faudrait les nettoyer parce qu'actuellement, les filtres à charbon actif sont tout simplement jetés. Et alors, donc, l'autre élément important du cahier des charges, c'était un recyclage qui n'impacte pas l'environnement. Et finalement, on a fait de telle sorte que le recyclage se fasse par un rinçage très simple. Donc, on laisse quelques heures les filtres dans une bassine avec de l'eau du robinet, et petit à petit, les formaldéhydes dégorgent, va dans l'eau, et les filtres est à nouveau propre et prêt pour utilisation. Il suffit de les secouer un petit peu, on les fait sécher à l'air et on les remet dans l'appareillage.
Donc c'est une manière limite un petit peu plus écologique, j'ai envie de dire, voilà. de filtrer.
Le but c'était celui-là, hein, parce que bon, il y a quand même pas mal de conseillers qui nous ont découragés faire cela, parce qu'ils disent, mais vous savez, en réalité, dans la purification de l'air, on gagne beaucoup en vendant des filtres. Là, donc, déjà, on a un filtre qui est a une capacité très élevée. Donc, dans un habitat normal, il peut fonctionner pendant un an en continuant de filtrer efficacement l'air et en stockant les formaldéhydes sans besoin d'être retraité. Et après, on a fait des tests. Il peut durer 10 ans, parce, dans le sens qu'on a essayé une dizaine de cycles, il continue de fonctionner parfaitement. Et donc, grosso modo, on nous dit, ben, les jours que vous arrivez à les faire, vous vendez votre machine, vous vendez les filtres, vous n'en vendez qu'un, hein, parce qu'après, les gens continuent de les recycler. Oui, mais ça nous semble bien plus éthique que de vendre quelque chose, type les cartouches d'imprimante, qui coûtent une fortune et qu'il faut changer au bout de quelques semaines. Donc voilà, nous avons fait ces choix pas très commerciaux, mais qui nous semblent bien pour l'environnement.
Et donc, de manière plus générale, est-ce qu'on arrive à capturer la plupart des polluants intérieurs ou ça reste encore une problématique qui continue à se multiplier, peut-être ?
C'est une problématique. On s'est attaqué au formaldéhyde parce que c'est les plus concentrés. En parallèle, on s'était attaqué aussi aux oxydes d'azote, qui sont un polluant qui est très répandu, très fréquent, qui... disons, est issu de toute combustion aux flammes libres. Donc, vous pouvez en avoir chez vous, notamment à la cuisine. Il y en a quand il y a un moteur à combustion, à côté de votre chaudière, etc. Et les concentrations en ville peuvent être très élevées. Donc là, à nouveau, avec DEMOF, on a trouvé une solution d'élimination des oxydes d'azote à température ambiante, à l'air libre, sans utiliser des sources d'énergie. Et donc, SquareTech, la start-up, développe aussi ces types de filtres. Et après, ça dépend. Donc, si les problèmes sont des molécules de type aromatique, hein, donc des cycles carboniques, bah, dans ce cas-là, les charbons actifs sont efficaces, s'il n'y a pas trop d'eau. Et après, donc, on veut aussi se pencher sur d'autres composés organiques volatiles, essayer de voir si on ne va pas trouver d'autres systèmes qui les éliminent sélectivement. Cela n'est pas un problème parce que, vous voyez, donc c'est un processus chimico-physique, donc ce qui veut dire, ça s'est fait à l'air libre, il y a juste un flux de gaz qui passe à travers, vous pouvez faire un mélange. Donc avec les billes qui constituent les filtres à formaldéhyde, on peut mélanger d'autres billes qui arrêtent d'autres polluants, et vous avez un filtre complet efficace sur plusieurs polluants à la fois.
On remercie Marco Daturi, qui, je le rappelle, est professeur en chimie physique à l'université de Caen. On accueille maintenant Aline, qui revient toutes les deux semaines pour nous parler des expressions françaises. Salut Aline.
Bonjour Bastien, bonjour à toutes et à tous. Puisque notre langue est complexe et qu'elle est pleine d'expressions de toutes sortes, je vous propose de découvrir l'origine de certaines d'entre elles.
Il est vrai que l'on est parfois loin de connaître les histoires qui se cachent derrière les expressions françaises. De quelle expression vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Eh bien aujourd'hui, je vais parler d'une expression qu'on a peu l'occasion d'utiliser au quotidien ou à laquelle on ne pense pas forcément. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. C'est assez marrant d'en parler parce que je trouvais cette expression fascinante quand j'étais plus petite, mais surtout, j'arrivais pas à la dire sans bégayer et je la comprenais pas du tout. Je m'arrêtais seulement au premier degré de l'expression. Une pierre qui roule, et voilà, c'était marrant apparemment.
Bon, c'est pas juste une pierre qui roule, y a quand même un sens derrière cette phrase.
Bien sûr, puisque vous en doutez, c'est une allégorie. En fait, elle signifie que si une personne est toujours en mouvement, en agitation dans sa vie, elle ne pourra pas accumuler de la sagesse ou des biens dans plusieurs domaines, mais on se réfère surtout et souvent à l'argent. Si je traduis un peu de manière exagérée cette expression, ça donne « si tu trouves pas un travail fixe, t'auras pas d'argent ». Donc tout de suite, c'est beaucoup moins rigolo que « Pierre qui roule n'amasse pas mousse ».
C'est sûr que ça donne pas la même impression, mais elle a été inventée il y a longtemps, cette expression.
Oh que oui, et dans l'Antiquité même, elle est tirée du latin « saxum volutum non obducitur musco ». Littéralement, la pierre roulée ne se recouvre pas de mousse. Bon, après, on n'est pas allé chercher très loin, même si au XVIe siècle, c'était pas encore ça, puisqu'on disait « pierre souvent remuée de la mousse née velée », velée qui veut dire « vêtue, revêtue ». Puis par la suite, on est venu à notre populaire « pierre qui roule n'amasse pas mousse ».
Et est-ce qu'elle est répandue, cette phrase, en France, dans le monde ?
Eh bah oui, mais pas forcément sous cette forme, puisque en fait, la nécessité de développer son projet sans virevolter partout pour gagner plein d'argent, c'est une opinion assez répandue, et ça a même tendance à relever de la tradition. Les Grecs et les Romains mettaient d'ailleurs davantage d'harmonie et d'équilibre de vie en avant. Par exemple, parmi d'autres expressions qui veulent dire la même chose, dites différemment, on a « arbre souvent transplanté n'a jamais de fruits en abondance », donc c'est assez joli, ou « celui qui habite partout n'habite nulle part ». Mais en dehors de cette expression marrante avec un fond très sérieux, il est important de savoir faire la part des choses puisque voyager, c'est bien aussi et ça permet de s'enrichir culturellement et intellectuellement. Mais le voyage, c'est sûr qu'en général, ça appauvrit.
En parlant d'argent, ça paraît plutôt absurde de désigner la mousse d'une pierre comme la fortune d'une personne, non ?
En effet, ça questionne et certaines personnes réinterprètent d'ailleurs l'expression pour donner une connotation négative à la mousse. Elle symboliserait plus la moisissure et la pourriture. Alors la pierre lisse, brillante, roulante, représenterait le dynamisme libre, prêt à toute éventualité. C'est l'écrivain Romain Rolland qui en parle dans son livre « Le buisson ardent » et écrit « À rouler à travers le monde, non seulement il n'avait pas amassé mousse, mais il s'était défait de celle qui le couvrait, de tous ses vieux préjugés. »
Pierre qui roule n'amasse pas mousse, c'est une expression assez ancienne. Est-ce que sa signification, que l'on peut dire entre guillemets traditionnelle, de se fixer pour s'enrichir, est toujours dans l'air du temps ?
Eh bien, ça dépend comment on voit les choses. D'un côté, la stabilité amène à la stabilité et se concentrer pour capitaliser sur ses efforts, ça a tendance à payer. Mais pour celles et ceux qui préfèrent rouler, il existe aujourd'hui de nombreuses professions et activités de plus en plus mobiles. Et enfin, pierre qui roule ou pas, il y a toujours moyen de faire un choix. La mousse de la sagesse et de la fortune ou le dynamisme et la liberté d'une pierre lisse.
Eh bien, merci Aline pour ta chronique expression française. Je remercie une seconde fois Marco Daturi, professeur de chimie physique à l'université de Caen. Je remercie également Émile, toujours au poste à la régie. Pierre qui roule n'amasse pas mousse, j'espère que tu es bien payé. Merci à vous également, chers auditeurs et auditrices, pour nous avoir suivis pour cette édition de La Méridienne. Vous pourrez retrouver l'émission demain et jeudi à 13h. Cependant, les deux émissions ne seront pas en direct car je serai en formation jusqu'à jeudi. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver les podcasts des émissions sur le site de la radio. En attendant, retrouvez Amélie qui animera La Belle Antenne, votre émission d'actualité culturelle à 18h. Je vous souhaite une bonne journée.